Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie, saison 2, réalisé à partir d'une session de sensibilisation proposée aux adhérents du Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr, rubrique contact. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Académie MEDEF. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est entreprise et biodiversité, les outils pour passer à l'action. Nous accueillons Sébastien Sureau, qui est expert dans la direction développement durable au MEDEF, accompagné de plusieurs partenaires, pour nous parler de ce sujet. Alors pour la bonne organisation de ce webinaire, nous vous remercions de bien vouloir couper vos micros. Également, vous pouvez laisser vos questions sur le chat. Nous prendrons un temps pour y répondre en fin de session. Et le support vous sera bien entendu adressé à l'issue du webinaire. Merci à tous pour votre participation. Je laisse la parole sans plus attendre à Sébastien.
Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce matin pour ce webinaire entreprise et biodiversité. C'est un webinaire qu'on va faire à trois voix dans un premier temps, avec notamment Laura Rouvière de l'Office français de la biodiversité, ainsi qu'Antoine Dussard de la Ligue de protection des oiseaux, avec qui on a notamment travaillé sur le développement du MOOC qu'on vous présentera au cours de ce webinaire. Je vais laisser tout de suite la parole à Laura Rouvière, si elle est bien là et si tout fonctionne bien, pour vous parler dans un premier temps des enjeux relatifs à la biodiversité.
Donc merci au MEDEF d'avoir organisé ce webinaire sur entreprise et biodiversité. Avant de démarrer, on trouvait important de pouvoir vous rappeler, c'est vrai que la biodiversité, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui dans les médias. On parle souvent maintenant des enjeux climat et de la biodiversité, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours de quoi on parle lorsqu'on parle de biodiversité. Donc c'est important pour nous de démarrer par replacer un peu la définition finalement de la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est la diversité du vivant. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ça nous éclaire pas forcément beaucoup plus. En fait, la biodiversité, c'est trois composantes. C'est la diversité des milieux. Donc vous pouvez voir sur les photos à gauche de l'écran, voilà la différence entre la diversité entre un milieu montagneux par exemple ou un milieu forestier. Mais c'est aussi la diversité des espèces. Alors ça, c'est la partie la plus peut-être connue ou commune pour nous tous, c'est-à-dire la différence entre un oiseau, un être humain, une bactérie, un rongeur, par exemple. Mais aussi, une troisième composante, c'est la diversité des individus au sein d'une même espèce, c'est-à-dire la diversité génétique au sein d'une même espèce, comme vous pouvez le voir là par exemple sur l'image tout à droite de la différence entre l'ensemble de ces coccinelles, mais c'est aussi la différence entre Sébastien, Antoine, moi, on est tous différents. Et en fait, c'est l'ensemble de ces diversités qui fait la biodiversité, mais pas que, c'est aussi l'ensemble des relations et des interactions entre ces trois niveaux de diversité finalement. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude d'utiliser une métaphore qui est assez parlante, qui est celle de le tissu vivant de la planète, parce que la maille de tissu, finalement, ça permet pas mal d'illustrer cette diversité, cette importance des interactions et des relations, puisque quand on a une maille de tissu, on va par exemple tirer un fil, il peut rien se passer, mais on peut tirer un deuxième fil, un troisième fil, et à un moment donné, c'est toute la maille qui s'en va. Donc c'est un peu cette idée. La biodiversité, ça ne se résume pas à un catalogue d'espèces, mais c'est bien plus complexe, et ces trois niveaux de diversité représentés là de manière très schématique, qu'il faut se projeter un peu comme un tissu, et qui est un socle sur lequel finalement repose l'ensemble des activités humaines. On peut passer la slide suivante. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, vous avez dû en entendre parler, la biodiversité est menacée, on parle de 6e extinction de masse. L'indice planète vivante qui a été publié en octobre dernier à jour du WWF fait un constat encore de moins 69% depuis les années 70. mais l'IPBES qui a rendu son rapport. Alors l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC qu'on connaît pour le climat, mais pour la biodiversité, c'est-à-dire un ensemble d'experts scientifiques aussi des politiques qui se mettent d'accord sur finalement l'état de la biodiversité qui concerne l'ensemble des études qui sont publiées et qui a pu, du coup, en 2019, faire aussi ce constat alarmant de l'érosion de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, on parle d'un million d'espèces menacées d'extinction et du coup, de l'ensemble derrière, des, comme je vous disais tout à l'heure, des individus, des milieux qui sont associés. Donc, on est réellement en train de d'éroder, finalement, les fondements même de notre humanité, mais aussi de nos économies, nos moyens de subsistance et d'exister, comme la citation que je vous présentais là sur la slide. On peut passer la slide suivante. Alors, face à ce constat assez alarmant, hein, la sonnette d'alarme qui a été tirée à la fois par le monde des ONG, mais aussi par le monde scientifique à travers le rapport de l'IPBES qui a été publié en 2019. Il y a un agenda international et des cadres nationaux qui se mettent en place, qui existaient déjà, mais qui sont en train de se renforcer. Donc, on voit là un peu la séquence qui s'est passée ces dernières années et qui continue dans le temps avec 2019, donc la publication du rapport dont je vous parlais. 2021, vous avez dû en entendre parler puisque c'était la France qui accueillait à Marseille le Congrès mondial de la nature, qui permettait du coup à un consortium d'acteurs entre des experts, des ONG, mais aussi des États, des collectivités, de formuler des recommandations d'action par rapport à cet état. Et ensuite, donc, vous avez dû entendre parler peut-être de la COP15 qui va se tenir là dans quelques semaines maintenant, à Montréal, qui va fixer le nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Alors COP15, vous allez me dire que je me suis trompée dans les chiffres, mais on est bien sur la COP15. COP, ça veut dire en fait Convention of the Parties. En fait, toute convention signée par des États comporte des COP. C'est quand les États qui ont signé une convention se réunissent pour discuter de l'avancement et de la mise en œuvre des objectifs de la convention. Donc, pour le climat, on est un chiffre beaucoup plus haut puisque les COP ont lieu tous les ans. Pour la biodiversité, elles ont lieu tous les deux ans. C'est pour ça qu'on en est à la 15e. Il faut savoir qu'à Rio, en 92, quand on a signé la convention pour le climat, on a signé aussi deux autres conventions, celle pour la biodiversité et celle pour la lutte contre l'érosion des sols. Et notamment ce nouveau cadre mondial qui va être du coup définitivement adopté là d'ici à peine deux semaines, fixe un objectif qui concerne spécifiquement les entreprises, avec cet objectif qui doit être fixé, donc qui est en cours de négociation, de moins 50% d'impact négatif de toutes les entreprises. En France, le cadre mondial, tout ce qui se passe dans le cadre de la Convention biodiversité se traduit en stratégie nationale pour la biodiversité, une nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité. Ce sont des stratégies décennales. Du coup, un premier volet de cette stratégie a été publié en mars dernier et du coup devrait au premier trimestre 2023 être publié dans sa version définitive et fixera donc le cap de la France pour atteindre ses objectifs internationaux. Et bien évidemment, tout ceci se situe bien dans le cadre aussi des ODD que vous devez peut-être plus, enfin avec lesquels vous êtes peut-être plus familiers, les objectifs pour le développement durable, dont deux comportent finalement sont vraiment dédiés à la biodiversité, même si un grand nombre des objectifs de développement durable ne pourront être atteints si on ne préserve pas la biodiversité. On peut passer la slide suivante. Donc, on en parlait tout à l'heure, le rapport de l'IPBES qui est sorti en 2019 a permis de vraiment poser les fondements des causes de l'érosion de la biodiversité et le lien direct entre les activités humaines et l'érosion de la biodiversité. Donc, c'est bien les activités humaines qui sont en cause et a permis d'identifier les principaux facteurs d'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire les principales grandes causes d'érosion de la biodiversité par ordre d'importance. Le premier, c'est le changement d'usage des terres et des mers. Quand on parle peut-être d'artificialisation, c'est-à-dire quand on passe de l'usage d'un sol qui était par exemple un espace naturel à du coup un espace qui est imperméabilisé ou utilisé pour du développement urbain par exemple, ou encore lorsque on passe d'un sol qui était utilisé pour des pratiques agricoles, on va dire, douces et qui passent à du coup des pratiques agricoles plus intensives. Mais aussi, on pense aussi à l'ensemble du littoral, etc. Donc voilà, c'est le changement d'usage qu'on fait à la fois des terres et des mers. Le deuxième facteur d'érosion de la biodiversité, c'est l'exploitation des ressources naturelles, ou plutôt on devrait dire la surexploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire qu'on va prélever pour nos activités dans le milieu naturel des ressources, mais on les prélève à un rythme plus élevé que la capacité de l'écosystème, du système à pouvoir les renouveler. Le troisième, c'est les changements climatiques. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que vous voyez un peu plus. Mais en effet, les changements climatiques sont un facteur d'érosion de la biodiversité, car ils ont en fait un effet très néfaste sur les espèces. Ces changements sont tellement en fait rapides qu'ils n'ont pas le temps du coup de s'adapter, même si la nature lui connaît une grande capacité de résilience et d'adaptation. Là, aujourd'hui, les changements auxquels on est confrontés sont beaucoup trop rapides et violents pour lui permettre de s'adapter et donc sont en cause dans son érosion. Le quatrième, ce sont les pollutions, donc que ce soit les pollutions plastiques ou encore les pollutions chimiques, enfin l'ensemble des pollutions du coup liées à nos activités qui du coup se retrouvent dans le milieu naturel et qui donc sont en cause dans la destruction d'un certain nombre d'espèces et de milieux. Le dernier, peut-être un peu moins évident, ce sont les espèces exotiques envahissantes, c'est-à-dire les espèces qui du coup se déplacent et circulent et qui vont venir finalement prendre faire concurrence à d'autres espèces locales présentes. On pense par exemple aux frelons asiatiques. Je pense que ça doit vous parler à tous, et du coup qui peut avoir des effets très néfastes sur la biodiversité et le déséquilibre d'un certain nombre d'écosystèmes. Voilà. Et donc l'ensemble de ces facteurs-là sont vraiment directement liés à nos activités et donc ont un impact sur la biodiversité, sur ce qu'on en retire. On peut passer la slide suivante. Voilà, donc pour toutes ces raisons, la biodiversité devient en fait une préoccupation incontournable pour les entreprises. Le dernier World Economic Forum a pu ériger au troisième rang des risques les plus importants pour l'économie et les sociétés humaines la biodiversité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a une prise de conscience qui évolue finalement de « bon, ben en fait, on parle des enjeux climat, mais derrière, les enjeux biodiversité deviennent de plus en plus concrets et matériels. » Tout à l'heure, Sébastien vous expliquera de manière un peu plus précise les liens qu'entretiennent la biodiversité avec les entreprises et en quoi ça peut avoir un réel impact finalement sur les activités. On parle aussi de 55% du PIB mondial qui dépend d'une biodiversité de services écosystémiques en bonne santé. Et enfin, un dernier chiffre qui me paraissait aussi intéressant, parce que ça montre aussi les choses de manière concrète, c'est une étude qui a été publiée par la Banque de France, réalisée notamment avec l'OFB, mais aussi l'AFD et CDC Biodiversité, qui a été publiée en 2021, qui a analysé finalement que 42% du montant des actions obligations détenues par les institutions financières françaises étaient émises par des entreprises qui sont fortement ou très fortement dépendantes d'au moins un service écosystémique. Donc ça met quand même en avant les liens de plus en plus du coup matériels et très rationnels d'un point de vue aussi économique entre les entreprises, les activités économiques et la biodiversité.
Merci Laura. Donc je vais vous parler plus spécifiquement justement de ces interactions entre monde économique et biodiversité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre des stratégies des entreprises, la biodiversité est peut-être pas encore au même niveau que les enjeux climatiques, mais comme Laura vient de le préciser, les enjeux associés à la biodiversité sont sans doute aussi importants, voire plus que les enjeux associés au changement climatique. Et si vous êtes présent ce matin, c'est bien, j'imagine, pour essayer d'avancer vis-à-vis de cette problématique-là. Alors, les liens entre biodiversité et monde économique, ils sont très nombreux, on le voit à travers cette roue là qui représente les services écosystémique et donc trois types de services écosystémiques. Donc les premiers qui sont les plus faciles à appréhender, ce sont les services rendus par la nature pour l'approvisionnement en matières premières notamment. Bon, bien sûr, on peut imaginer l'approvisionnement pour tout ce qui est alimentation, l'énergie, les ressources médicales, mais aussi toutes les ressources pour les cosmétiques. Et puis un certain nombre de matériaux. Le second service, qui est peut-être un peu moins évident, c'est celui relatif à la régulation. Mais c'est vrai que la nature rend beaucoup de services, notamment pour le traitement de l'eau, pour la dépollution des sols, mais aussi pour la lutte contre les inondations, hein, par exemple. De façon plus globale, la régulation des événements extrêmes. On pense notamment, par exemple, aux tempêtes ou à des phénomènes comme cela. Le troisième type de service, il est peut-être un peu moins évident, mais tout aussi important, c'est celui des apports immatériels. On entend par apports immatériels, notamment, les paysages et le fait que les paysages offrent une expérience physique et psychologique positive, hein, pour la plupart des habitants. Et donc c'est intéressant, notamment par rapport à des secteurs comme le secteur du tourisme, hein, ou comme le secteur de la restauration, qui sont forcément très dépendants finalement d'un bon entretien de la biodiversité, d'un bon développement de la biodiversité et une bonne préservation des paysages. Donc voilà, donc on se retrouve avec beaucoup de secteurs qui finalement dépendent très très directement, hein, de la biodiversité. Alors les secteurs comme l'agroalimentaire, la beauté, la pharmacie ont un impact très très direct, hein. On peut penser aussi au textile, mais comme je viens de le dire, le tourisme, tous les sports de plein air et loisirs ont aussi des impacts très directs sur les enjeux de biodiversité. Donc face à de telles interactions, il est extrêmement important, notamment, que les entreprises prennent le temps de comprendre, d'évaluer les impacts qu'elles peuvent avoir sur la biodiversité, finalement, ce qui les relie à la biodiversité, mais aussi les risques liés à l'érosion de la biodiversité par rapport à leurs activités, par rapport au fonctionnement de leur chaîne de valeur, et puis éventuellement les opportunités qui peuvent être offertes là aussi par une meilleure préservation de la biodiversité. Donc tout ceci, ça constitue en fait une analyse des risques et opportunités qui est extrêmement important de recenser aujourd'hui, et d'ailleurs dans le cadre des négociations qui vont s'ouvrir à Montréal là, dans le cadre de la COP15 biodiversité, le sujet notamment d'un reporting obligatoire des entreprises vis-à-vis de ces interactions avec la biodiversité sera au cœur des discussions, un petit peu comme cela sera le cas au niveau européen. Alors, c'est justement ces risques et opportunités, hein, elles sont multiples, vous les voyez sur cette diapositive. On a des risques quelque part qui sont assez connus, assez classiques. On pense notamment aux risques liés à la réglementation et aux risques juridiques. Alors c'est vrai que notamment, hein, on imagine très bien le fait, les conséquences que peuvent induire sur une entreprise le fait d'avoir détruit par exemple des espèces protégées ou des paysages si nous n'en avons pas l'autorisation. Donc ce sont des recours pénaux potentiellement. Bien sûr, il y a aussi tous les risques associés au refus de délivrance de permis d'exploitation, hein, ou de permis ou d'autorisation d'extraction. On pense notamment au secteur des carrières, mais aussi, hein, à tout ce qui est les infrastructures linéaires, par exemple. Inversement, c'est vrai qu'une entreprise qui intègre la biodiversité dans ses stratégies et donc a déployé des actions favorisant la préservation de la biodiversité peut avoir des facilités à obtenir des permis d'exploitation ou des permis d'extraction, par exemple. Et donc voilà, certaines professions ont bien compris cet enjeu-là et travaillent justement à montrer en quoi leurs activités sont pas dommageables à la biodiversité. Le second enjeu que l'on voit poindre, notamment dans le cas des discussions au niveau européen sur la taxonomie, c'est les enjeux liés au financement. C'est vrai que de plus en plus d'acteurs financiers sont mobilisés pour essayer d'identifier l'impact des financements sur la biodiversité et donc challenge leurs clients vis-à-vis de justement la performance vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la biodiversité, et donc comment est-ce que ces enjeux-là sont intégrés dans les stratégies des entreprises. Ça peut se traduire par clairement hein, des baisses de financement, aussi des risques assurantiels, hein, c'est extrêmement important à prendre en compte. Et puis inversement, en termes d'opportunités, c'est vrai que vous pouvez avoir accès à des fonds potentiellement verts si vous portez des solutions favorables à la biodiversité. D'autres types de risques, notamment assez compréhensibles là aussi, les risques opérationnels. C'est vrai que si demain votre chaîne de valeur se retrouve interrompue parce que l'un de vos fournisseurs n'a pas pu récupérer les matériaux qui sont directement liés à la biodiversité, on peut penser par exemple à des attaques de parasites dans une forêt qui rendent le bois non utilisable pour les matériaux, et donc forcément vous vous retrouvez avec une chaîne de valeur qui est perturbée, potentiellement au coût aussi des augmentations de coûts hein, de production au sein de votre chaîne de valeur. Voilà, on sait très bien que par exemple la baisse de production des produits agricoles peut entraîner des augmentations de prix sur la chaîne agroalimentaire. Inversement, là aussi, beaucoup d'opportunités à essayer de trouver pour développer à la fois des filières labellisées qui respectent davantage la biodiversité, qui entretiennent les paysages, qui prennent soin de s'assurer de la régénération des milieux. Et ça peut aussi avoir un impact sur les produits, sur les marchés. Vous pouvez développer des gammes de produits, par exemple, bio. C'est valable notamment dans le secteur agroalimentaire, le secteur cosmétique, et ça, ce sont des sujets qui sont sur lesquels les consommateurs sont finalement de plus en plus sensibles et donc qui peuvent à la fois améliorer l'image de votre entreprise, l'image de vos produits et offrir des opportunités de développement sur des nouveaux marchés. Voilà un petit peu brosser rapidement les grands enjeux entreprise et biodiversité, et donc alors on peut prendre un petit peu de temps là en effet pour répondre à quelques questions s'il y en a dans le chat, et on passera ensuite aux outils.
Oui, alors on a une question. Certains pensent que la lutte contre les espèces envahissantes ne sert à rien et que c'est s'épuiser que de lutter contre ça. Qu'en pensez-vous? Faut-il lutter et détruire les espèces qui ont été introduites dans des écosystèmes dont ils ne sont pas originaires, ou faut-il laisser la nature pour réguler ces espèces invasives? D'autre part, comment convaincre les personnes qui n'y voient aucun intérêt? Et une autre question, si les enjeux liés à la biodiversité sont aussi, voire plus importants que ceux liés au changement climatique, il n'y a que très peu de cadres légaux et d'obligations qui encadrent les impacts sur la biodiversité, contrairement aux émissions de gaz à effet de serre, obligations de reporting, crédit ECTS, etc. Savez-vous si un cadre contraignant serait en cours de réflexion pour engager les entreprises à réduire leur pression exercée sur la biodiversité?
Alors, je vais peut-être répondre à la deuxième question, et puis Laura, si ça te va, je te laisserai peut-être répondre à la première question. Concernant le cadre légal, il est quand même important, hein, puisque on l'a vu, hein, notamment en ce qui concerne les émissions industrielles l'encadrement des polluants et des produits chimiques. Il y a quand même un cadre déjà très très robuste au niveau français, au niveau européen, et donc là, il y a quand même déjà beaucoup d'enjeux, hein, notamment sur les émissions industrielles, sur les installations industrielles de façon générale, et puis sur l'encadrement des produits et de la mise à disposition des produits. C'est vrai qu'il y a des discussions en cours, notamment au niveau européen, pour là aussi renforcer la préservation de la biodiversité et favoriser notamment la renaturation. Et donc là, ça sera des discussions qui vont s'ouvrir dès 2023 pour essayer de fixer aux États membres des objectifs pour essayer, non pas de stopper la perte de biodiversité, mais bien essayer de retrouver davantage de biodiversité. Ça fait partie aussi des objectifs qui vont être discutés lors de la COP15 qui s'ouvre à Montréal. Laura ?
Oui, alors par rapport à cette question des espèces exotiques envahissantes, c'est vrai que aujourd'hui elle fait débat puisque en fait, comme je vous le disais, on réalise aussi, c'est vrai que la nature a une grande capacité de résilience. Le sujet là, c'est qu'en fait aujourd'hui la biodiversité fait face à une crise quand même qui est sans précédent, et donc l'IPBES a quand même fait ce choix de bien identifier et souligner ce facteur-là comme un facteur d'érosion de la biodiversité. On pourrait imaginer que dans un cadre un peu plus tranquille pour la biodiversité, ce serait peut-être plus facile, et on pourrait regarder finalement comment cela peut évoluer et du coup, comme vous dites, laisser la nature faire. Voilà. Aujourd'hui, donc, les scientifiques essayent quand même de travailler à mieux comprendre, puisque on en apprend tous les jours avec la biodiversité, hein. On ne connaît pas l'ensemble des espèces et l'ensemble de leur fonctionnement encore aujourd'hui sur Terre, de mieux comprendre les interactions avec ces espèces invasives. Là, en tout cas, aujourd'hui, le cadre qu'on se fixe reste celui de l'IPBES. Il n'est pas impossible que ça puisse évoluer ensuite, mais je laisserai plutôt les scientifiques se positionner directement là-dessus. Aujourd'hui, en tout cas, en l'état des choses et en l'état de la biodiversité et des facteurs de pression et la pression auxquelles fait face la biodiversité, il semble vraiment important de pouvoir, en tout cas, agir et lutter contre ça pour essayer d'améliorer son état.
Merci beaucoup Laura. On a une autre question. Pourquoi ne parle-t-on jamais de la problématique de la surpopulation humaine et d'inégalités sociales qui engendrent également une érosion de la biodiversité ?
Alors Laura, je peux te laisser répondre peut-être sur les facteurs indirects.
Oui, alors c'est vrai que là, aussi le temps ne nous permet pas forcément de rentrer dans l'ensemble des détails, et puis on a essayé de centrer cette présentation aussi en lien avec les enjeux qui sont plus directs des entreprises. Mais c'est vrai que l'IPBES, quand elle a identifié du coup les différents facteurs d'érosion de la biodiversité, elle identifie derrière un certain nombre de facteurs indirects qui sont en cause dans cette érosion de la biodiversité, et notamment des facteurs sur lesquels il faudrait agir. On appelle ça un peu les mesures levier, et dedans on retrouve un certain nombre d'enjeux comme les inégalités sociales, les systèmes de valeurs, les systèmes de gouvernance, etc. Et donc, c'est vrai que là, on n'est pas rentré dans ce niveau-là, mais dans ce schéma-là, on peut dire qu'en fait, il y a un niveau encore au-dessus de leviers indirects qu'il faudra aussi actionner, qui sont des leviers plus profonds. On parle de changement transformateur. Pour ceux à qui ça parlerait, qu'il faut aussi pouvoir actionner et qui aurait des effets sur l'ensemble de ces facteurs-là. Mais voilà, je ne sais pas si là on a le temps de rentrer non plus trop en profondeur là-dessus. En tout cas, c'est tout à fait juste. Là, on a présenté les enjeux de manière plus succincte.
Voilà, merci beaucoup Laura. Et en effet, ces facteurs indirects, ils ont un impact important, hein. On a parlé de la démographie, mais on peut aussi parler notamment de la dimension culturelle, des choix de consommation. Et donc, ça interroge en effet tout notre système. On voulait, dans un second temps, évoquer avec vous un certain nombre d'outils. Alors, c'est vrai que voilà, le MEDEF, depuis quelques mois, porte un engagement, hein, qu'il a pris auprès notamment de l'Office français de la biodiversité dans le cadre du dispositif partenaire engagé pour la nature dont Laura vous parlera tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au-delà de son du rôle d'acteurs engagés auprès des pouvoirs publics, notamment que le MEDEF essaye d'avoir maintenant depuis une dizaine, quinzaine d'années sur le sujet de biodiversité, on a souhaité ces deux dernières années vraiment construire un plan d'action plus robuste. qui s'articule en trois axes. Un axe autour de la sensibilisation avec deux outils qu'on met à disposition de tous. Donc un premier guide entreprise et biodiversité qui a été publié en février 2021 et qui est accessible sur le site du MEDEF. Donc c'est un guide qui fait une vingtaine, trentaine de pages, qui est très pédagogique, très illustré, et donc on a voulu vraiment en faire la pierre de base pour tout acteur d'une entreprise qui souhaite s'intéresser à la biodiversité. Puis on a développé donc le MOOC, hein, entreprise et biodiversité, sur lequel Antoine reviendra juste après, et ainsi que différentes actions de mobilisation, donc à la fois dans les territoires. On invite fortement les MEDEF territoriaux à se saisir de ces sujets de biodiversité, notamment en lien avec les agences régionales de la biodiversité qui se mettent en place un petit peu partout en France, et puis également organiser des événements comme ce webinaire aujourd'hui. Enfin, peut-être de façon un peu plus anecdotique, on essaye de développer des bonnes pratiques et mettre en valeur des bonnes pratiques, notamment avec certains de nos partenaires, notamment la FNSEA qui a développé une filiale Epiterre qui vise à restaurer notamment certaines haies en bordure de champs. L'objectif aussi de toutes ces actions, c'est de montrer que pour arriver à relever ce défi de la transition écologique, on peut pas le faire tout seul, il faut le faire en partenariat, notamment avec les institutions publiques, et c'est pour ça qu'on souhaitait la présence ce matin de l'Office français de la biodiversité, mais aussi avec des acteurs pour lesquels les entreprises sont peut-être un peu moins familiers, notamment les ONG. Et donc, voilà, on est convaincu que c'est à travers ce type d'interaction et qu'on peut avancer sur ces sujets-là. Et donc, je vais laisser la parole à Antoine Dussard de la LPO pour vous présenter le MOOC.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je partage complètement cette même vision que le MEDEF. Effectivement, face à ce constat donc d'érosion de la biodiversité, il est nécessaire donc de s'unir pour agir de façon collective à tous les niveaux, que ce soit effectivement institutionnel, citoyen, mais aussi en tant que professionnel. Moi je suis donc Antoine Dussard, responsable formation apprentissage en ligne donc à la LPO. J'ai été le coordinateur de ce projet de MOOC et j'en suis aujourd'hui donc l'animateur pour ceux qui voudraient s'inscrire. Voilà, ça sera moi derrière le MOOC qui répondrait ensuite à vos questions. Comme l'a présenté Sébastien, il existe un certain nombre d'outils permettent de comprendre les enjeux, d'avoir accès à certains retours d'expérience. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas aujourd'hui de formation en ligne, et c'est quand même un avantage. On peut vraiment toucher un certain nombre d'acteurs par ce biais massif, et donc faire de la sensibilisation à grande échelle. Donc c'est pour ça qu'on a construit cette formation avec l'objectif que vous voyez ici, hein, qui est vraiment de faire de chacun des stagiaires, de nos participants, des ambassadeurs de la biodiversité, qui comprennent effectivement l'importance d'agir et leur donner les outils pour qu'ils puissent engager à l'échelle de leur entreprise ou de leur structure une action concrète à mettre en place et qui toucherait notamment son activité professionnelle. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce MOOC? Déjà, le premier point, effectivement, à rappeler, c'est une formation qui est gratuite. On a vraiment voulu l'ouvrir à tous. Vous y trouverez différents supports de cours sur une durée qui va entre 6 et 9 heures, que vous pouvez suivre à votre rythme, en fonction des sujets qui vous intéressent. On a vraiment laissé cette liberté aux participants de pouvoir sélectionner les sujets en fonction de sa filière, mais également pouvoir permettre de découvrir certains sujets et d'approfondir aussi pour ceux qui ont déjà des bases et qui voudraient aller plus loin. Ce MOOC également, il est vraiment conçu comme un outil pour passer à l'action. On n'est pas seulement, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le titre, on n'est pas seulement sur le fait de comprendre les enjeux, mais vraiment de passer au stade des solutions. Et pour ce faire, on a voulu apporter la preuve par l'action, en montrant qu'un certain nombre d'entreprises de différentes tailles et de différents secteurs ont déjà mis en place des initiatives tout à fait intéressantes et réplicables. Également, on a sollicité plusieurs experts pour nous accompagner sur la présentation des enjeux et fournir un ensemble de connaissances qui vous permettent de vous engager sur le chemin de l'action. Donc, comme je disais, donc ce mot qui s'adresse vraiment à tous, on est resté effectivement vigilant pour montrer que même des entreprises de petite taille, des PME, TPE, peuvent agir, et on a effectivement des retours d'expérience en ce sens. Voilà. Après, c'est pas seulement s'adresser à tout type d'entreprise, mais également s'adresser à tout type de public au sein de ces entreprises. Effectivement, ce mot qu'il a aussi vocation à s'adresser donc aux dirigeants de l'entreprise, aux responsables d'équipe, aux responsables en charge des sujets environnement, développement durable, RSE, à tout employé volontaire aussi, et plus largement également, ça peut constituer un outil de sensibilisation de l'ensemble de vos équipes au sein des entreprises. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver concrètement, comment vous allez progresser au sein de cette formation? Vous allez retrouver un parcours constitué de 3 séquences. La séquence initiale, qui est un petit peu le tableau qu'on vous a brossé ici, pour comprendre les enjeux et effectivement comprendre que finalement son entreprise est bien plus concernée par les enjeux de préservation de la biodiversité qu'on ne le pense. Et une fois qu'on a dit ça, on passe à la séquence 2 où il s'agit de présenter un panorama d'actions, de solutions possibles qu'on a regroupées en 3 catégories. Un premier sujet qui est j'agis dans le quotidien de mon entreprise avec des sujets qui se retrouvent dans chacune des structures, les sujets énergie, mobilité, ça peut être également tout ce qui a trait au numérique, aux cantines. Donc comment dans la structure de son entreprise on peut mettre en place des actions qui favorisent qui limitent l'impact plutôt sur la biodiversité. Ensuite, un deuxième bloc d'action essentiel qui est j'agis dans le cœur de mon métier, dans mon cœur de métier. Donc ici, c'est à la conception de mon produit, à la conception de mon service, comment aussi je peux limiter mon impact sur la biodiversité à chaque étape de la chaîne de valeur. Également, agir en tant qu'exploitant de ressources naturelles ou responsable des achats. Dernier bloc de solutions qu'on présente, c'est également agir sur la biodiversité de proximité. Et là, c'est plutôt, j'agis à l'échelle de mon site d'activité. Donc, ça peut être comment intégrer la biodiversité au bâti, tout ce qui est végétalisation, aménagement pour la faune sauvage. Également, plus en amont aussi, lorsque une entreprise décide de construire ou d'étendre ses bâtiments, comment préserver les sols en amont de ce projet? Et enfin, comment également agir sur les espaces extérieurs, le foncier de l'entreprise, avec des mesures de gestion écologique de ces espaces, et également de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est ce qui constitue la séquence 2, avec 3 sujets à choisir parmi l'ensemble de ce que je vous ai présenté. Et on arrive ensuite à la séquence 3, qui, une fois que on a vraiment pris conscience qu'on peut faire plein de choses, comment est-ce qu'on peut structurer sa démarche biodiversité. Et là, on vous donne les clés pour bâtir un diagnostic, choisir ses partenaires, construire un plan d'action, mobiliser ses équipes, et ensuite comment communiquer. Vous voyez ici donc les différents supports qu'on propose, donc des supports vidéo bien évidemment, avec des témoignages d'experts comme Anne-Larry Gaudry, secrétaire exécutive de l'IPBES, comme Guy Sidos, coprésident de la commission transition écologique économique du MEDEF et PDG de Vicat. On a également donc ce que je vous disais, sollicité des entreprises de plusieurs secteurs pour apporter leur témoignages. Et puis donc ces différents supports, diaporama interactif, fiches pratiques, infographie, pour acquérir des connaissances sur le sujet. Et je terminerai ensuite par le dernier point que vous voyez pas représenté ici. On a également voulu proposer ce qu'on appelle le parcours ambassadeur, qui permet en fait aux participants de déjà réfléchir à l'échelle de son entreprise à une action à mettre en place dans sa structure en faveur de la biodiversité, de façon déjà à réfléchir à l'après-MOOC, Et se dire effectivement que c'est pas parce qu'on a suivi une formation, une sensibilisation, qu'il faut s'arrêter là. Il faut effectivement s'engager. Ce MOOC justement a cette vocation et de faciliter l'intégration de l'entreprise dans des programmes d'action qui existent, comme notamment la communauté des engagés pour la nature.
Alors justement, on va laisser, on va redonner la parole à Laura sur ces différentes initiatives. Juste Laura, on est un peu pris par le temps, donc on te laisse peut-être 5 minutes avant de passer au témoignage.
Oui, ça me va, très bien, pas de souci. Oui, donc l'Office français de la biodiversité porte l'initiative engagée pour la nature. Très rapidement un mot sur l'Office français de la biodiversité puisque on est un établissement tout jeune. On a été créé au 1er janvier 2020, mais on est issu d'une longue histoire d'établissements préexistants que peut-être vous connaissiez, de fusion d'établissements, donc l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, notamment les parcs nationaux de France, les aires marines protégées, etc. Et donc, on a 3 grandes missions. La police de l'environnement, tout ce qui est développement de la connaissance et de l'expertise sur la biodiversité, et un troisième volet qui est la mobilisation de la société qui concerne plus particulièrement mes missions et l'initiative que je vais vous présenter là. Je fais ça de manière très vite, je vous invite à regarder qui on est un peu l'équivalent de l'ADEME, mais côté biodiversité, sauf que nous, on va juste fêter là, à la fin de l'année, nos 3 ans. Donc l'initiative engagée pour la nature, c'est une initiative du ministère de l'écologie qui s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales pour la biodiversité dont je vous parlais tout à l'heure. Il vise 3 objectifs. L'idée, c'est de faire émerger en nombre des engagements volontaires de la part des acteurs pour la biodiversité, de reconnaître leur qualité et de derrière pouvoir animer ces communautés d'acteurs et de pratiques pour les renforcer, les consolider et faire en sorte qu'elles aillent de plus en plus loin. Cette initiative se décline pour les entreprises, pour les collectivités territoriales et pour les partenaires, c'est-à-dire tous les acteurs qui peuvent se faire le relais de l'accompagnement de cette mobilisation, comme par exemple le MEDEF, qui est partenaire engagé pour la nature. Sébastien en parlait tout à l'heure. On peut passer à la slide suivante. Donc le programme Entreprises engagées pour la nature, c'est un programme donc qui s'adresse aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, et aussi quel que soit leur niveau de départ, puisqu'on est vraiment sur de la valorisation de démarche de progrès. L'idée, c'est de à la fois pouvoir avoir un cadre d'action pour une entreprise qui voudrait faire le premier pas, mais aussi pour une entreprise qui met déjà en place des actions et voudrait faire les pas supplémentaires. L'objectif de ce programme, c'est d'aider l'entreprise à structurer sa démarche biodiversité. C'est vrai que souvent, sur la biodiversité, la question qui revenait, c'était mais quel cadre, comment par où je commence, comment je peux démarrer une démarche. Là, à travers le guide que vous pouvez retrouver aussi sur notre site, mais qui reprend des éléments d'étapes méthodologiques, vous retrouverez aussi sur le MOOC, ça vous permet de voir un peu les fondamentaux, les grandes étapes pour structurer une démarche biodiversité, les différents outils que vous pouvez mobiliser. Ça permet aussi de pouvoir donc passer à l'action et faire reconnaître ses actions. C'est vrai que c'est plus facile de s'engager dans une démarche biodiversité quand on sait que derrière, on va pouvoir finalement faire reconnaître, valoriser ces actions, notamment par un acteur comme l'Office français de la biodiversité. Et enfin, 3e volet, ça permet de sensibiliser et mobiliser ses salariés, mais aussi ses clients et ses actionnaires, parce que les projets biodiversité aujourd'hui sont très fédérateurs au sein de l'entreprise, car ils sont porteurs de sens, et on le voit de plus en plus, que ce soit au niveau des salariés, des clients ou des actionnaires. C'est un enjeu, en tout cas, le sens et s'inscrire dans le monde de demain, entre guillemets, qui est de plus en plus prégnant. C'est un programme 100% gratuit, il permet d'accéder à différents outils, recueils de bonnes pratiques, d'avoir accès à une forme de visibilité des actions qu'on met en place. Et derrière, un volet très important pour nous, il permet d'accéder au club des engagés, ce dont je vous parlais tout à l'heure, une communauté d'acteurs et de pratiques qui permet, sur différents sujets, des échanges entre pairs, du partage de pratiques, donc entre pairs, c'est-à-dire entre entreprises qui mettent en place des actions, entre entreprises débutantes comme entreprises déjà beaucoup plus initiées sur le sujet, mais aussi des webinaires avec des experts. Ça permet aussi de développer du networking et d'être en lien avec les territoires qui sont engagés et aussi les partenaires qui sont engagés dans les autres programmes. On peut passer la slide suivante. Alors là, vous voyez les différentes étapes pour s'inscrire dans le programme. La première étape, c'est l'adhésion, c'est la signature des 10 principes communs Act for Nature par le plus haut niveau, le top management. Pour nous, la mobilisation du top management, c'est vraiment une condition qui va permettre, d'efficacité de l'action, qui va permettre qu'ensuite, la démarche puisse être portée au plus haut niveau. Vous disposez ensuite donc d'un an, tout se fait en ligne via notre plateforme sur le site que vous voyez en dessous. Vous disposez ensuite d'un an maximum pour déposer un plan d'action, donc des actions concrètes comportant des objectifs SMART, qui vous engage du coup individuellement à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité. Ce plan d'action, il doit comporter au moins deux actions, puisqu'on s'adresse à des entreprises, quelle que soit leur taille, et dont une doit être en lien avec le cœur de métier. L'idée étant que, à travers ce programme, on puisse interroger sa chaîne de valeur, ses activités, ses pratiques, ses impacts, même si on peut aussi proposer des actions qui sont plus en lien avec de l'accueil de la biodiversité sur les sites, par exemple, ou des actions de mécénat ou des actions partenariales avec des acteurs. Une fois que vous avez déposé votre plan d'action, tous les deux ans et au terme du plan d'action, la durée du plan d'action vous est propre. C'est en fonction, c'est vous qui choisissez la durée, mais tous les deux ans et au terme du plan d'action, faites un reporting, en fait, un bilan de la mise en œuvre de vos actions à l'OFB et qui est évalué et qui vous permet d'accéder à un des trois niveaux de reconnaissance, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Ça vous permet de qualifier finalement la qualité du plan d'action et de sa mise en œuvre. Et l'idée étant de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue avec l'idée que, donc à la fin, vous puissiez déposer un nouvel engagement qui soit plus ambitieux, etc. Et pendant toute cette durée-là, vous bénéficiez bien évidemment du coup des différents outils et du club qui permet d'échanger, de monter en capacité, de monter en compétences sur ce sujet. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plus de 190 entreprises qui ont adhéré et un peu moins de 90, je crois qu'il y en a 90 maintenant, parce que ça évolue assez vite, entreprises qui ont déposé des plans d'action. Et vous voyez là, au niveau des logos, la diversité des tailles et des secteurs d'activité qui peuvent être représentés, en passant de l'agroalimentaire par les services liés à l'énergie, le tourisme, l'immobilier, etc. Partenaire engagé pour la nature, donc c'est le programme à destination donc de ceux qui peuvent se faire le relais de la mobilisation. Donc par exemple, un MEDEF territorial pourrait tout à fait s'inscrire dans la démarche. L'idée, c'est de aussi prendre des engagements à l'échelle d'une organisation pour mobiliser en tant que tête de réseau organisation ses membres à s'engager en faveur de la biodiversité, à leur mobiliser au sens large, c'est-à-dire ça va d'action de sensibilisation, la production de guides, à jusqu'au développement par exemple de formations ou d'ateliers plus poussés qui vont permettre de sensibiliser au moment de la durée de la reconnaissance. Elle dure 3 ans, c'est une reconnaissance aussi de l'OFB. Là, l'évaluation se fait au moment où vous déposez en ligne du coup votre démarche volontaire en faveur de la biodiversité.
Super, merci beaucoup Laura. Peut-être en complément là de ces deux dispositifs d'engagement, juste de dire un mot d'un autre dispositif qui s'appelle Act for Nature International, donc qui est un dispositif complémentaire au dispositif entreprise engagée pour la nature qui vient de vous être présenté. Act for Nature International est un dispositif là aussi promu par le MEDEF et en partenariat notamment avec la FEP et EPE, et qui s'adresse principalement aux grandes entreprises françaises présentes notamment à l'international, d'où son nom de Act for Nature International. Donc c'est un dispositif là aussi un peu sur le même type de d'objectif et d'engagement notamment de la part des CEO, et donc toutes les informations sur ce dispositif complémentaire Act for Nature International sont disponibles sur le site d'Act for Nature International. Voilà. Pour conclure ce webinaire, il nous semblait important de faire parler certains témoins qui ont notamment eu l'occasion de suivre le MOOC et qui mettent en place en tout cas des démarches en faveur de la biodiversité. Et donc on va laisser la parole à Clémence Debat, qui est notre collègue du MEDEF Centre Val de Loire. Puis ensuite on laissera la parole à Claire Mazard de l'entreprise Pierre Fabre. Clémence.
Bonjour tout le monde, vous m'entendez ?
Très bien, parfait.
Alors, en quelques minutes, moi je suis chargée de mission transition écologique et RSE pour le MEDEF Centre-Val de Loire. C'est une création de poste, je suis arrivée il y a 3 mois. Et quand je suis arrivée il y a 3 mois, justement, j'ai suivi le MOOC Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'était très complet. Je confirme tout ce qui a été dit. Moi, ce que je voulais vous dire, c'était d'abord que c'était une très bonne expérience de suivre ce MOOC, que j'ai trouvé qu'il y avait un juste équilibre entre la théorie, les connaissances scientifiques très bien vulgarisées et les exemples concrets. Ce que j'ai aimé dans les exemples concrets, c'est qu'on avait des entreprises de tailles différentes et de métiers et d'univers très variés, ce qui montre que en fait tout le monde est concerné et que c'est accessible à tout le monde, avec de nombreuses actions concrètes sur le terrain. Donc, comme on vous l'a expliqué, il y a un socle de base et après il y a une possibilité de naviguer et d'aller peut-être se spécialiser sur mon cœur de métier, sur mon bâtiment, etc. Moi, j'ai décidé de tout faire parce que je trouvais ça tout intéressant. Et en termes de timing, j'y ai consacré à peu près une grosse heure par jour pendant une semaine en prenant des notes parce que je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, ça c'est sur l'aspect MOOC. Et juste pour vous dire que modestement, en région Centre-Val de Loire, on est en train de faire deux actions, enfin deux événements plutôt. En fait, l'Agence française de la biodi pardon, l'Agence régionale de la biodiversité est en train d'organiser un premier événement en janvier au sein d'une entreprise pour mobiliser des entreprises et on fait partie du comité de pilotage et de mise en place de cet événement. Et comme écho à cet événement en janvier, nous-mêmes, on a aussi pris l'initiative d'organiser quelque chose au mois de juillet, début juillet. Alors, pas à Orléans, mais à Blois, pour un peu aussi sortir du territoire d'Orléans, toujours sur la biodiversité, qui sera sous un format peut-être plus témoignage et table ronde des entreprises qui ont intégré dans leur stratégie justement soit la protection, soit la diminution de leur impact négatif, etc., dans leur stratégie d'entreprise. Voilà ce que je peux dire.
Merci beaucoup Clémence. Et puis on va laisser la parole à Claire Mazard de l'entreprise Pierre Fabre qui justement a construit une stratégie biodiversité. Claire, est-ce que vous nous entendez?
Oui. Bonjour à tous. Vous
Parfait, on vous
m'entendez
entend
bien?
aussi très bien.
Allez, super. Donc, laboratoire Pierre Fabre, qui est un laboratoire, pour ceux qui connaissent pas, d'argument cosmétique et pharmaceutique français, pour lequel la nature est au cœur, en fait, de notre modèle. On a un programme de développement durable qui s'inscrit autour de cinq enjeux clés pour le groupe, parmi lesquels on va retrouver, la protection de notre patrimoine végétal et la réduction de notre empreinte environnementale, mais aussi l'engagement de nos collaborateurs, nos sites et nos filiales, ainsi que nos marques, par le biais d'actions sociales et environnementales. C'est donc par là que le MOOC s'inscrit dans nos pratiques et vient soutenir nos pratiques. Donc, en termes de déploiement à l'intérieur de l'entreprise, on a démarré par une population très ciblée, c'est-à-dire les collaborateurs Pierre Fabre qui sont pour l'instant directement impliqués dans la conduite de projets biodiversité au sein du groupe. Donc, ces personnes-là ont été invitées à suivre le MOOC. Certains d'entre eux l'ont terminé, d'autres l'ont bien avancé et d'autres comme moi l'ont pas du tout démarré. Donc, on s'est fixé un rendez-vous en début d'année 2023 pour pouvoir faire un REX tous ensemble et voir quel était le bénéfice du MOOC à la fois pour les personnes qui l'ont suivi, mais aussi pour l'ensemble du groupe. Quelles étaient les pistes d'amélioration qui se dégageaient pour nos pratiques internes? Et comment le partager plus largement au sein de l'entreprise et inciter certains métiers, type responsable de site, les équipes en charge de l'HSE et autres collaborateurs à suivre cette formation. Donc, parmi mes collègues qui ont suivi le MOOC aujourd'hui, les retours qu'on en a, c'est que la durée du MOOC est adaptée à un déploiement au sein d'une entreprise. Il n'est ni trop long, ni trop court et en même temps voilà il y a des détails sur des points précis qui sont apportés donc ça c'est un point super positif. Le contenu pédagogique est très diversifié avec beaucoup de fiches de synthèse et d'interviews. Le déroulé du MOOC en fait suit la réflexion qu'une entreprise pourrait avoir en souhaitant s'engager justement dans une stratégie biodiversité selon la norme biodiversité ou comme demandé dans les référentiels entreprises engagées pour la nature dont on a déjà parlé. Et donc ce MOOC pour nous est un soutien vraiment concret à cet engagement et montre que s'engager dans entreprises engagées pour la nature est atteignable en fait. C'est pas quelque chose d'inatteignable du coup. Si on devait suggérer une proposition d'amélioration de notre point de vue entreprise, c'est peut-être ponctuellement apporter plus de chiffres clés impactants en fait pour les apprenants sur l'érosion de la biodiversité, pour toucher encore un peu plus la corde sensible quelque part. Mais globalement, on est très content et on envisage du coup de déployer plus largement après notre REX au mois de janvier. Mais on salue en tout cas le niveau de travail et de qualité du MOOC qui en font un outil très très utile pour nous.
Merci beaucoup à toutes les deux pour ces deux témoignages qui, j'espère, auront donné envie à d'autres, donc du coup, de suivre ce MOOC, de s'inscrire. Donc encore une fois, les inscriptions sont gratuites. À noter aussi qu'elles peuvent se faire en continu, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on a décidé de ne pas organiser le MOOC et le suivi du MOOC par séquence. Hein, et vraiment, c'est quand vous voulez que vous pouvez vous inscrire sur ce MOOC. Donc, on vous encourage vivement à le faire. Et c'est vraiment, alors peut-être par rapport à une question qu'on a vue dans le chat, c'est vraiment pour toutes les types d'entreprises, y compris parfois même pour les entreprises de services, hein, comme les nôtres, puisque comme l'a dit Antoine, on peut aussi travailler sur la préservation de la biodiversité, ou en tout cas un moindre impact de la biodiversité, en travaillant notamment sur ses fournitures de base, sur son bâtiment, mais aussi quelque part dans les choix stratégiques que l'on fait en termes de clients que l'on choisi quand on est consultant par exemple ou de sujets que l'on veut traiter. Donc voilà. Normalement, ce webinaire sera accessible en ligne dans les prochains jours, donc on ne manquera pas de vous tenir informé là de la mise à disposition du podcast. Et puis, si éventuellement il y a une petite dernière question, je crois qu'on a une ou deux minutes, mais sinon on va, en tout cas, on va vous remercier très chaleureusement pour votre participation. Vous étiez plus d'une centaine ce matin lors de ce webinaire, ce qui nous encourage à en faire plus régulièrement sans doute. Et donc voilà, on vous invite également à vous rendre sur les sites de nos partenaires, à la fois Office français de la biodiversité, pour voir ce que c'est plus précisément que ce nouveau ML structure qui a toute jeune, qui a moins de 3 ans, comme l'a dit Laura, mais qui est très active, y compris en région, et puis sur le site de la LPO, qui développe des partenariats entreprises et LPO, notamment autour de...
Notamment autour des actions sur site. Effectivement, nous, on est des naturalistes de terrain et on a la capacité d'accompagner les entreprises à une meilleure intégration de la biodiversité sur leur site d'activité.
Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on n'a pas grand-chose à rajouter. En tout cas, voilà, encore une fois, un grand merci et à très bientôt pour les prochains webinaires organisés par MEDEF Academy.
Au revoir à tous et merci beaucoup.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.